Unonado, lula nero toncar, yupi kairi, no yo paluyar, mofino, me dunetun sha, yupi kairi, nericostoña, tu debi kiri, kikon li fugeri, tuto los costoño, no garujola.
On avait raison, et ô combien, à 3000%, donc ça c'était indestructible. Et là, on a collecté. En ne pensant qu'à ça, en ne parlant que de ça, et je pense en étant absolument invivable pour toute personne qui n'était pas inscrite dans cette passion-là. C'était au-delà de la passion. Je pense qu'on on était obsédé à un point inimaginable où on aurait, si on s'était fait choper par la médecine, on se faisait tous enfermer. Pour de bon, on y serait encore en cabane. On ne faisait que ça, que ça, que ça, que ça. Par tous les temps. Y compris bloqué dans la neige avec la deux chevaux qui était à cheval sur une congère. Et la neige était au milieu. On avait les roues, un coup ça portait devant, un coup ça portait derrière. Mais bon, quand les bagnoles étaient légères, on arrivait à les pousser, les soulever. Et on a, pour aller en Zalugui, on a fait des trucs de dingue. Après, on allait souvent chez Riols. Puis en chemin, hop. Et puis bon, on partait en collecte, voilà, c'est on collectait. Et on jouait. Et on écoutait. C'est-à-dire que les 78 tours, on les passait au ralenti. C'est-à-dire qu'on mettait ça sur l'UR en 19, et puis on descendait en 7 et quelques, en 5, en 2. Et on. Donc on a débroussaillé beaucoup de choses qui nous ont permis très vite de pouvoir transmettre ce qu'on avait. C'est que les musiciens routiniers sont issus quasiment de ces quelques personnes. Et après, se sont adjoints d'autres grands collecteurs comme Jean-François Chassin, qui a fait un travail absolument remarquable. Mais les musiciens routiniers n'étaient pas par région à cette époque, c'était global. C'est-à-dire que dans notre esprit, on recouvrait le monde entier. Il n'y avait pas de c'était pas circonscrit d'un point de vue géographique, d'autant que on avait bien compris que c'était ridicule, puisque les musiques ne suivaient pas les frontières administratives. Donc les musiciens routiniers se sont structurés, mais avec un véritable discours. C'est-à-dire qu'on était passionnés, certes, par la collecte, on était des fous furieux de la chose, mais il y avait malgré tout une idéologie derrière, quoi. Tout le temps, il y a eu un discours idéologique et politique. C'est-à-dire qu'on savait qu'à un moment donné, on ne faisait pas ça pour des prunes, quoi. Et on ne le faisait pas simplement pour accumuler des éléments de répertoire. Là, on avait quand même une conscience, je pense, relativement claire sur l'importance du rôle qui était le nôtre, sur ce à quoi on était confronté en collecte. Cette richesse d'expression artistique de l'ordre de l'oralité, et qu'il fallait, un, faire ce travail de préservation de manière à pouvoir le transmettre, et que c'était des autorisations pour notre propre expression artistique, et qu'on avait besoin de ces matériaux, et que les grands artistes qu'on a rencontrés nous ouvraient des portes de choses possibles qu'on n'était pas censé soit imaginer, soit oser le faire, quoi. Et là, quand on voyait un gars comme Roulant, ou comme le Mémé Bécéreau, ou comme Oriols, ou d'autres, ou le Mémé Bach, les points t'en tombent, quoi. C'était tellement génial. Et que la différence entre Piaf, Brel, Mémé Bécéreau et Roulant, nip, zéro. On a toujours pensé que on ne pouvait pas faire avancer les choses si on n'avait pas la connaissance. Que ça ne tombait pas du ciel, quoi. Donc il fallait qu'on acquiert la connaissance, qu'on la comprenne, et qu'on la comprenne d'une manière purement, je vais dire, analytique, mais, et en même temps, purement sensible. Il fallait qu'on ait les ressorts, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement de connaître des milliers de morceaux et d'avoir les répertoires en mémoire, etc., mais qu'il fallait qu'on les passe à l'épreuve de notre propre expression artistique. Donc on était en train de devenir des grosses bonbonnes de savoir, et qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose, c'est-à-dire qu'on le traduise par le biais de publications, de stages, et puis qu'à partir de là, on arrive aussi à tuer nos pères pour pouvoir avoir une expression originale qui était la nôtre. On a opéré quelque chose qui était assez important également, c'est-à-dire que ce passage du folk aux musiques trad, donc c'est ce groupe-là qui a quasiment inventé ce concept. C'est le même groupe qui a développé ce type d'approche de collecte sensible dans une pratique instrumentale et artistique obligatoire, qui était une nouvelle approche ethnographique d'une certaine manière, mais assumée consciemment. On devait aussi rendre lisibles et audibles ces expressions artistiques au plus grand nombre, et qu'il fallait que l'on mette en œuvre un certain nombre de moyens pour y parvenir. Et donc là, on a fait les premiers stages des musiciens routiniers. Alors ça, c'était absolument grandiose. Je sais pas, il y avait une centaine de stagiaires, mais dans des trucs où... Et puis dans la manière dont c'était construit, où les gens étaient toujours reçus par de la musique et du chant, tout le temps, tout le temps. Et il y avait toujours un discours, il y avait toujours des espaces d'écoute, des rapports aux sources. Et on a fait, je sais pas combien on a fait de stages, mais on a peut-être fait ça pendant 7-8 ans, peut-être. Hein. On a lancé la revue, une revue Plein Jeu, puis Modal. Puis ce Modal a été pris par la Fédé. Et puis on a eu une chance aussi, on a eu une chance. Énormément de choses que l'on voulait écouter étaient enfermées aux ATP. Et on n'avait pas accès à ces sources. Et en fait, là, on a été réactif. Autant on était actif du point de vue de la pensée sur le mouvement, là, on a été réactif et on a fait ce boulot. Si elle nous avait accueillis et ouvert les machines, peut-être qu'on aurait peut-être fait moins de choses. Et là, comme on avait une espèce d'opposition, qui était l'opposition scientifique reconnue de l'époque, alors là, je peux te dire qu'on a tiré. Et ça nous a. Je crois que ça nous a stimulés. On a eu, d'une certaine manière, on a eu de la chance.
Je suis pris, c'est pas ma faute d'avoir. n'avoir pas su me terrasser, n'avoir pas su me terrasser, n'avoir chanté ma peine, n'avoir parlé du gouvernement sur la place de Vienne.
Ça aurait pu s'arrêter là. Hein. On aurait pu être des amateurs éclairés qui finissent à un irrédulu local. Mais je pense que la réflexion politique a fait qu'on est. Ça, suite à ce mouvement des musiciens routiniers, il s'est structuré à la suite. Parce qu'il y a eu des musiciens routiniers par région. Et il y a eu Limousin. Auvergne, BBN, Paris-Banlieue, et des gens qui adhéraient, qui étaient dans les Landes, on avait un réseau, quoi. Hein. Et donc la structuration s'est faite par région. Je me suis retrouvé président, je crois, de la FEDE des musiciens routiniers. Je crois dans le même mouvement, j'ai dû quitter mon boulot d'éduc, et je suis devenu permanent des musiciens routiniers Auvergne. Et Olivier, permanent des musiciens routiniers Limousin, je crois. Et donc on a monté une entreprise à deux. On a joué à deux pendant plusieurs années. Et on a sillonné le pays dans tous les sens. On devait faire, je ne sais pas, me semble, plus de 100 dates par an, quoi. Plutôt 150. Et on faisait des dates, par exemple, avec le parc, on faisait des animations scolaires dans la journée. Lorsqu'on avait une demi-journée de libre, on faisait du collectage à l'endroit où on se trouvait. Et le soir, on faisait un bal, concert-bal. Et ça, plus de 100 fois par an. Donc là, on a beaucoup tourné ensemble. Et puis avec Olivier, on a été beaucoup ambassadeurs des musiciens routiniers. Et donc on a passé beaucoup de temps à discuter, à réfléchir, énormément de temps, parce qu'on vivait quasiment ensemble. En 1983, on est parti aux États-Unis, et on a amené des anciens, donc on a amené pour l'Auvergne-Perrier, Auriol's Pons. Et là, il y a des choses qui se sont qui ont commencé à basculer. C'est-à-dire qu'on était dans une... On avait commencé des musiciens routiniers qui étaient sur une aire géographique ouverte, en faisant des musiciens routiniers par région. On avait pris conscience que si on ne rentrait pas dans le cadre administratif, jamais on aurait des aides. On a travaillé sur la dimension régionale, et en faisant ça, on a commencé à prendre des contacts les uns et les autres avec les structures régionales, c'est-à-dire avec les régions, avec les DRAC. Parce qu'on est quand même à une époque où Mitterrand vient d'emporter son premier mandat, et il y a une véritable intelligence politique sur le terrain culturel, entre autres. Et elle est liée à deux individus, le ministre de la Culture de l'époque, qui est Jacques Lang, mais surtout, et avant tout, à un mec absolument génial qui s'appelle Maurice Fleuret, et qui est le directeur de la musique au ministère de la Culture. Et ce gars, qui est un vrai génie là, lui, savait qu'il fallait donner un coup de main aux musiques traditionnelles. Et nous, on était juste à maturité. Coup de bol. Donc, il y a eu une rencontre à Risse, qui avait été provoquée par les gens de Risse, et entre autres par Philippe Krum, qui était dans les musiciens routiniers Paris-Banlieue. Donc, on a été là, et puis on a bien senti qu'il était prêt à soutenir le truc. La réflexion que je me suis fait à l'époque, là, parce que c'est beaucoup plus clair dans ma tête, parce que c'était des choix qui allaient complètement bouleverser ma vie perso, donc je m'en souviens, là. J'étais pas dans la fougue du chien fou des années précédentes. Je me suis dit, si on continue comme ça, n'importe comment, on va pas aller très loin. Alors là, c'est clair dans mon esprit, parce que je sais exactement comment j'ai structuré le... Je me suis dit, l'équipage que l'on fait, qui est de très haute tenue avec Olivier, il y avait quand même une très très belle tenue de boulot, mais on était, si tu veux, c'était consanguin, quoi, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on était tous les deux ensemble tout le temps. Alors c'est vrai que ça a permis de structurer les musiciens routiniers, ça a permis de structurer le mouvement des musiques traditionnelles, on a été fortement impliqués là-dedans, et ça a permis de déclencher l'existence de la FEDE. C'est-à-dire qu'on a rencontré, parce que comme on bougeait beaucoup, on a rencontré les gens de l'UPCP à l'époque, et on a rencontré deux individus qui ont été décisifs. Un, André Paché, qui, lui, malgré l'écart de génération, avait été obligé. Et Jeannie, qui était de notre génération, et qui commençait à rouler dans les brancards. Et c'est avec lui qu'on a quand même fusionné un peu ses idées pour monter la FEDE, qui s'est créée en 85-86. Par là.
En Mirandant de la Boura, en Mirandant de la Boura, trouve femme malade, oh, et oh, trouve femme malade, oh, il m'en dit, femme, qu'as-tu? Il m'en dit, femme, qu'as-tu? Oh, il grand mal à la tête, oh, eh, oh, oh, il grand mal à la tête, oh, femme, veux-tu de la soupe au chou, femme, veux-tu de la soupe au chou, ou est de la soupe à la porraille, oh, eh, oh, ou est de la soupe à la porraille, oh, il aimerait bébé soupe au vin. J'aimerais bébé de la soupe au vin, que de la soupe à la poraille. Oh, eh, eh, oh, que de la soupe à la poraille. Oh, femme, faut vendre notre vin. Femme, faut vendre notre vin. Rang payant la taille, oh, eh, oh, rang payant la taille, oh. Faudra-t-on vendre notre lit, faudra-t-on vendre notre lit, et puis couchant sur la paille, oh, eh, oh, et puis couchant sur la paille, oh.
Ce que j'ai fait, c'est les premières mises en route des grandes stratégies qui vont suivre, c'est de dire les centres de gravité des concepts, ils sont à l'endroit où on investit le plus d'énergie. Donc c'est de concentrer les choses sur la dimension auvergnate, de manière à ce qu'on fonde une structure qui soit consacrée aux musiques traditionnelles. Donc là, bonjour le boulot. Alors on a eu la chance, c'est que la mission du patrimoine ethnologique nous a filé deux postes. Un pour Olivier, un pour moi. Et qu'on a été un peu plus dispo, quoi, toi, mais bon, en même temps, on continue de travailler ensemble. Hein. Mais moi, j'ai passé quand même pas mal de temps à la DRAC, beaucoup, beaucoup de temps, à préparer. Et puis, on avait un conseiller musique qui était absolument génial, qui était Alain Loiseau, et qui est devenu, auprès de Fleuret, le spécialiste des musiques traditionnelles. Parce que lui, il a saisi le truc, il a vu l'énergie que ça... Parce que quand t'as 30 balais, je peux te dire que t'en bois du bois, quoi, tu vois. Donc moi, j'étais inarrêtable, tu vois. Et donc je l'ai vraiment nourri que par rapport à ça. Le drac de l'époque était très, très intelligent, au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il avait bien compris. Et puis il y avait cette capacité de confiance. Et d'une certaine manière, l'État pouvait prendre des risques financiers parce que l'État était riche à ce moment-là. Et donc, il fallait marquer un grand coup pour que le virage... C'est-à-dire que l'idée était partagée. Les gens étaient d'accord sur l'idée de l'intérêt des musiques traditionnelles, mais ce n'est pas pour autant qu'ils allaient pouvoir passer à l'acte pour dire ben, on met temps et puis on lance la machine. Ce n'est pas pareil. Et donc là, je me suis débrouillé pour que un colloque se passe, et au lieu de se passer ailleurs, qui se passe à Clermont. Et donc c'est la rencontre de la recherche à la création, qui a été montée par les musiciens Montigny, d'une certaine manière, en grande partie, et la Fédé. Donc tout la France a débarqué, le mouvement était là, on y avait, je sais pas, 300 ou 400 personnes. Et il a été fondateur, parce que comme les gens de la région ont été invités, sont venus, et la DRAC était là, ils n'ont pas lâché le truc, ils ont vu cette espèce de puissance, quand même, tu vois. Et là, ça fait plus qu'évoquer des choses. Et suite à ça, avec le conseiller musique Alain Loiseau, puis le DRAC, on a dit, on va monter, on va mettre en route la proposition que tu nous as faite, de monter le premier centre des musiques traditionnelles en France. Parce qu'il y avait des structures qui existaient avant, hein, d'Astum, du PCP, le Conservatoire Occitan... La Pios, mais ils n'étaient pas reconnus comme des centres de musique traditionnelle. Ils faisaient des choses, il y avait la langue dedans, il y avait... C'est plus large que la musique. Là, c'était l'Agence des musiques traditionnelles d'Auvergne. Point, premier centre des musiques traditionnelles.
l'olimoniere, poggia pedalo per plombier, poggia pedalo per l'olimoniere, poggia pedalo per plombier, poggia pedalo per l'olimoniere, poggia pedalo per plombier del cavalier, poggia pedalo per l'olimoniere, poggia pedalo per trimel del cavalier. Tadlandindililler, tilandittilillandillarindilliller, tilandittilillaritandirillandillaller, tilandindillallaritandilliller, tandrarandallalla.
Tadalalillarudalulleru, tadalalillarudalulandalalillarudalulleru, tadalalillarudalulatilulatilulandalulleru, tadalalitarudalulatilulatilulandalulleru. Tra la lilla lulero, 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 tra la